Vous écoutez les dossiers du FBI, une folie meurtrière. Deuxième partie.
Après plusieurs heures, ils n'avaient rien trouvé, comme se le rappelle l'agent spécial chargé de l'affaire à Saint-Louis, Al Alteroff.
Le soir où Michael Wayne Jackson a abandonné ce véhicule, on a ratissé l'autoroute, direction sud, et le lendemain matin, direction nord. Nous ne l'avons pas retrouvé. Ensuite, quand j'ai compris que les recherches seraient plus longues que ce que j'avais prévu initialement, j'ai demandé qu'on m'envoie davantage d'agents du FBI.
Des agents des autorités fédérales et de l'État examinèrent le dernier véhicule volé par Jackson. Ils remarquèrent que la portière du côté du conducteur avait été perforée lors de l'échange de coups de feu avec la police. Comme on ne retrouva pas de projectile à l'intérieur, on en déduisit que Jackson avait peut-être été touché aux côtes. Le fait qu'il ait abandonné le véhicule à peine quelques instants plus tard pouvait expliquer qu'il n'y ait pas de sang sur le siège.
Nous avons émis l'hypothèse qu'il avait peut-être été blessé et qu'il était allé au bord de l'autoroute, en direction sud, se reposer un peu. Il avait peut-être ensuite été incapable de se relever à cause de cette blessure, ou alors il était mort.
Les autorités érigèrent un périmètre de sécurité d'un rayon de 8 km autour de Wright City. Les 1200 habitants se réveillèrent le matin pour trouver leur ville remplie de policiers à la recherche d'un meurtrier armé et à l'esprit dérangé. Comme il n'y avait jamais eu d'homicide à Wright City, où les activités criminelles étaient plutôt rares, ils étaient terrorisés. Beaucoup d'entre eux verrouillèrent leurs portes pour la première fois et interdirent à leurs enfants d'aller à l'école ce jour-là. On quadrilla la région en secteurs d'un mille carré. Des équipes de recherche constituées de chiens renifleurs, de membres de l'unité SWAT, d'agents du FBI et des policiers de l'État se mirent au travail. On distribua la photo du suspect aux membres des équipes et on fit renifler les vêtements de Jackson aux chiens limiers. Des centaines de bâtiments habités ou inoccupés parsemaient le paysage. Il fallait tous les fouiller. Au cours des jours suivants, on examina de nombreux endroits à plusieurs reprises. C'était un travail ardu qui prenait beaucoup de temps. Les chiens limiers, reconnus pour leurs larges mâchoires et leurs longues oreilles, perçoivent les moindres odeurs. Malheureusement, ils ne trouvèrent aucune trace de Jackson. Près d'un bâtiment, des membres de l'équipe de recherche trouvèrent ce qui semblait un campement abandonné, mais ils apprirent bientôt que les casseroles et le vieil imperméable avaient été laissés là par un travailleur itinérant au moment des récoltes. Malgré une semaine de recherche, les équipes n'avaient rien découvert sur Jackson.
On essayait de ne pas se laisser décourager.
Agent spécial, Hal Helterhoff.
On gardait le moral en se disant que ce jour-là serait le bon, qu'on allait le trouver. C'est le genre de cas où nos équipes sur le terrain s'attendent à tout moment à voir le suspect. Ça les motive à continuer.
De leur côté, les médias informaient le public pendant que le FBI et la patrouille d'État arrêtaient toutes les voitures qui empruntaient le segment d'une quarantaine de kilomètres de l'autoroute d'un côté et de l'autre de Wright City. Un des automobilistes déclara être le neveu du fugitif. Il avait entendu parler des recherches et il désirait venir en aide à la police. Selon lui, son oncle n'avait aucun mal à survivre en forêt. De plus, comme Jackson possédait un gilet pare-balles, il était possible qu'il le porte. Cela pouvait expliquer comment il avait pu échapper à la police, malgré le fait qu'il ait reçu un projectile à la cage thoracique.
On avait des chiens renifleurs spécialisés dans la recherche de cadavres. Mais on n'a pas retrouvé de corps. J'étais donc enclin à croire qu'il était toujours en vie et en bonne santé.
Les fermiers de la région vaquaient à leurs occupations quotidiennes tout en demeurant vigilants. Une semaine après le début des recherches, une femme aperçut le fugitif, barbu, vêtu d'un imperméable noir, un fusil à la main. Elle s'empressa de le signaler aux autorités, mais les policiers arrivèrent trop tard. 7 jours après le départ précipité de sa maison d'Indiana, le fugitif meurtrier était toujours en cavale. Les agents du FBI devaient absolument le retrouver avant qu'il ne fasse une autre victime. Le 28 septembre 1986, une semaine s'était écoulée depuis le début de la poursuite de Michael Wayne Jackson, un fugitif armé recherché après avoir commis plus d'un meurtre, en plus d'avoir volé maintes voitures et blessé un policier. Le criminel de 41 ans avait été vu pour la dernière fois à pied dans le secteur rural de Rice City, au Missouri. Malgré des recherches intensives, le FBI et la police locale n'avaient trouvé aucune trace du meurtrier. Les agents du FBI croyaient que Jackson avait peut-être volé une autre voiture pour échapper à ses poursuivants. À court d'idées, ils se tournèrent vers Ron Walker, spécialiste de sciences comportementales au FBI.
On m'a demandé d'évaluer ou de prédire plutôt ce qu'il ferait par la suite. À quel endroit il irait, selon moi. Et plus important encore pour eux à ce moment-là, de leur dire s'il se trouvait toujours dans le secteur qu'il fouillait depuis 7 jours.
L'agent Walker examina les antécédents psychologiques et criminels de Jackson. Il lut également le rapport des derniers événements. Comme on n'avait signalé aucun autre crime depuis la dernière semaine, il en conclut que Jackson se trouvait vraisemblablement encore à Rice City.
J'en ai déduit qu'il était toujours là et qu'il était peut-être un peu désorienté. Compte tenu de ses tendances paranoïdes et de sa crainte d'être capturé, il éviterait tout contact avec des gens, sinon pour mettre la main sur un véhicule et s'enfuir. C'est pour cette raison que j'ai dit au policier qu'il était primordial de rester vigilant, pour lui montrer qu'il était toujours recherché très activement, pour ne pas qu'il ait l'impression qu'il pouvait facilement fuir en enlevant une autre personne dans sa voiture.
Comme le fugitif se trouvait sans doute encore dans le secteur, le FBI demanda l'aide de Bob Swabe, du bureau de Knoxville au Tennessee. Au cours de sa carrière, ce pisteur a entre autres retracé le meurtrier de Martin Luther King Jr., James Earl Ray, après qu'il se soit enfui de sa prison en 1976. Les agents espéraient que Swabe parviendrait à trouver Jackson à l'aide des infimes indices à sa disposition.
Il est très rare qu'on trouve une empreinte parfaite. On doit apprendre à interpréter les traces sur le sol. Et la moindre anomalie, comme une feuille retournée, ou une brindille cassée ou encore écrasée.
Grâce à son expérience, Swabe peut facilement distinguer une empreinte animale d'une empreinte humaine en évaluant sa profondeur et la hauteur des branches abîmées, l'état des herbes au sol, de même que la température de la trace. Alors que les animaux réchauffent l'emplacement où ils se sont couchés, ce n'est pas le cas des humains dont la chaleur est retenue par les vêtements ou les chaussures. Mais même pour un pisteur d'expérience comme Swabe, ce serait tout un défi de trouver la trace de Jackson, compte tenu de l'ampleur des recherches.
Beaucoup de gens étaient passés par là avant nous. Je crois qu'il y avait 200 ou 300 agents de police en tout, à la recherche du fugitif, avant même qu'on se soit rendu sur place. Ça rendait notre tâche plus difficile.
Puis, le 29 septembre 1986, un habitant de Rice City confirma ce que le psychologue avait soupçonné. Quelqu'un était entré par effraction dans sa maison d'invité. Rien n'avait été volé, mais il avait trouvé un miroir brisé, des rasoirs jetables utilisés et une boîte de soupe en conserve ouverte. Dans le lavabo de la salle de bain, les experts trouvèrent des poils tachetés de peinture argent. Il semblait bien que Jackson avait encore modifié son apparence. Après 9 jours de recherche, les agents craignaient que le fugitif n'ait échappé aux policiers en affichant une nouvelle apparence. L'agent spécial Jack Osborne prit les mesures nécessaires pour en informer le public.
Le 1er octobre, on a mis le nom de Jackson sur la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI pour que l'information soit diffusée à l'échelle nationale. Les recherches pour le retrouver à Saint-Louis et Wright City ont continué encore pendant plusieurs jours. Des gens avaient signalé sa présence, mais nous ne savions pas exactement où il se trouvait. Nous pensions que cette publicité additionnelle, le présentant comme un fugitif très dangereux, nous aiderait à le retrouver s'il avait quitté le secteur.
Le 2 octobre, les enquêteurs retournèrent à un bâtiment qu'ils avaient fouillé la semaine précédente. L'équipement de camping qu'ils avaient alors remarqué se trouvait encore là, mais quelque chose manquait. Un imperméable bleu. Jackson était-il venu le chercher maintenant que les nuits étaient plus froides?
J'avais l'impression qu'il chercherait un bâtiment abandonné pour s'y cacher et s'y abriter.
Ron Walker, spécialiste des sciences comportementales au FBI.
Nous avions affaire à un type en cavale qui n'avait rien à manger ni à boire et qui était sûrement dans un état émotionnel très instable, très anxieux. Physiquement, il allait mal et mentalement aussi.
En s'approchant de la grange que l'équipe avait fouillée plus tôt, un des pisteurs remarqua dans la boue l'empreinte d'une chaussure de course menant à l'intérieur. La dernière fois qu'on avait vu Jackson, il portait ce type de chaussure. Les membres de l'équipe ignoraient depuis combien de temps l'empreinte se trouvait là et si c'était bien Jackson qui l'avait laissée.
Des équipes SWAT étaient venues et il nous était impossible de savoir si cette trace avait été laissée par un des leurs ou par Jackson. La boue avait partiellement séché, mais il y avait encore un peu d'humidité, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas plus de 8 heures.
On entendit alors un coup de feu provenir de la grange. Un des membres de l'équipe parvint à sortir du bâtiment sain et sauf, mais pas son collègue.
Quand j'ai entendu la détonation au-dessus de ma tête, j'ai vu des plombs projetés partout dans la grange. Je n'ai pas cru qu'un d'entre nous avait été touché. J'ai alors regardé à ma gauche et j'ai vu l'un des pisteurs sauter dans un box.
Comme il ignorait où se tenait le tireur, il ne pouvait atteindre la porte sans risquer d'être une cible. Comme le pisteur n'avait pas de radio, les autres membres de l'équipe lui parlaient à travers les murs. Il leur dit qu'il n'avait pas été touché et décrivit l'intérieur de la grange pour que l'équipe puisse mettre au point un plan d'attaque. Il n'y avait pas d'autre sortie que la porte avant.
Pour moi, l'issue de l'affaire Jackson ne pouvait qu'être violente. Je me disais qu'il allait se barricader, qu'il y aurait une fusillade au cours de laquelle il se ferait éventuellement tuer par un policier, ou encore qu'il se jetterait sous le feu de nos hommes pour se suicider. J'étais absolument sûr que cette affaire ne se résoudrait pas sans violence.
Le pisteur attendait les secours de l'équipe. Il était prisonnier dans la grange, un forcené armé juché quelque part au-dessus de lui. Pendant qu'un hélicoptère surveillait les environs du haut désert, des membres d'une unité SWAT prirent position autour du bâtiment. Un tireur d'élite devait occuper par ses tirs le forcené juste assez longtemps pour que le pisteur puisse sortir de la grange. La tactique porta fruit. Même si le pisteur se trouvait depuis plusieurs heures à l'intérieur depuis le coup de feu initial, il n'avait ni vu ni entendu le fugitif par la suite. L'agent spécial en chef, Al Elteroff, devait maintenant prendre d'importantes décisions.
Nous ne voulions pas envoyer nos hommes à l'intérieur si Jackson avait prévu les prendre en embuscade.
Agent spécial, Al Elteroff.
Il pouvait n'avoir tiré que pour nous attirer à l'intérieur et nous y attendre, toujours bien en vie, avec tout ce qu'il lui fallait de munitions. On ne savait pas à quoi s'attendre.
Le propriétaire de la grange fit un croquis détaillé de l'intérieur du bâtiment. Il y avait un espace pour le tracteur, des stalles et juste au-dessus, le fenil où se trouvait une lucarne. Il n'y avait aucune autre issue ni aucune trappe par laquelle le suspect pouvait sortir.
Michael Wayne Jackson.
Les agents tentèrent d'entrer en contact avec le fugitif. Ils n'obtinrent aucune réponse.
Après avoir travaillé si fort et si longtemps, nous ne voulions pas tout gâcher en faisant une fausse manœuvre et risquer qu'un de nos hommes soit blessé. Il s'agissait donc de procéder de façon très disciplinée, très organisée.
L'agent spécial chargé de l'affaire espérait faire sortir le fugitif en envoyant du gaz lacrymogène dans la grange. Des hommes lancèrent des bombes lacrymogènes dans le fenil. Il n'y eut aucune réaction.
Il faisait nuit, et nous nous demandions si nous devions passer à l'action, lancer l'assaut, ou attendre au lendemain matin, ou du moins jusqu'à l'aube. Après 11 jours de recherche, on pouvait bien tolérer quelques heures d'attente de plus, surtout que l'homme à l'intérieur était pris au piège. Mais la météo prévoyait des orages violents vers minuit. Les responsables de la police d'État et moi-même avons donc décidé que c'était le temps de passer à l'action.
Équipés de lunettes de vision nocturne, des membres de l'unité SWAT se faufilèrent dans l'ombre. Deux d'entre eux fouillèrent le niveau inférieur pendant que deux autres les couvraient. Ils ne trouvèrent personne. Il était impossible de savoir si le fugitif les attendait, silencieux, ou même s'il était encore là. La réponse ne tarda pas à venir. Gisant parmi les balles de foin se trouvait un homme tenant un fusil qui semblait être Jackson. Il était mort, tué d'un seul coup de feu qu'il s'était tiré à la tête quelques heures plus tôt. Les agents devaient maintenant vérifier s'il s'agissait bien du fugitif.
J'ai dit, prenez ses empreintes.
Agent spécial, Hal Helterhoff.
Un expert du FBI se trouvait sur les lieux et il avait déjà les empreintes de Michael Wayne Jackson avec lui. Il a pris les empreintes de l'homme. Nous avons attendu qu'il ait complété son analyse, puis il nous a dit, c'est lui, c'est Michael Wayne Jackson. Nous étions tous très soulagés.
Le meurtrier ne portait aucun gilet pare-balles, mais comme le psychologue du FBI l'avait prédit, Michael Wayne Jackson avait choisi de se donner la mort plutôt que de se rendre. 11 jours après qu'il ait tué son agent de probation et commencé sa cavale, la ville de Wright City au Missouri put se sentir à nouveau en sécurité. L'affaire aurait pu mal se terminer, selon le sergent Don Biselli de la patrouille du Missouri.
J'étais soulagé pour les habitants, soulagé de savoir que plus personne ne serait blessé. C'était ma principale préoccupation. Plus personne dans la population n'aurait à s'inquiéter de Michael Wayne Jackson.
Depuis la mort de Thomas Gall, les agents de probation ont maintenant le choix de porter des armes de poing. L'agent spécial Jack Osborne était proche de Gall et de sa famille, et il souffre toujours de cette perte.
En tant que représentant de la loi, je crois qu'on meurt un peu lorsque quelqu'un qui nous est cher souffre. Tom était proche de moi, c'était un ami. Et non seulement mon ami, mais aussi celui de tous les agents de notre bureau. Nous le connaissions bien et travaillons souvent en étroite collaboration avec lui, ainsi qu'avec le bureau de probation.
Pour rendre hommage à Thomas Gall, cet homme qui a donné sa vie dans l'exercice de ses fonctions, le bureau de probation d'Indianapolis porte maintenant son nom. Ainsi, ses amis et collègues ont pu exprimer de façon officielle leur profond respect et leur affection pour cet homme exemplaire.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Fett et Marc Marabella. Il a été réalisé par Jeff Fine. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Marie Agasson. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Olivier Citruc.